Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Alors que les catholiques français sont pour la plupart sous le choc du rapport de la CIAS, cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, le pape François, bien qu'ayant dit sa profonde tristesse à la publication de ce rapport, parlant même d'un moment de la honte, le pape François donc a ouvert le synode sur la synodalité, une démarche, qui fera date dans l'histoire de l'Église tant elle est large et vise rien moins au dire du pape qu'à construire une Église différente, reprenant ainsi les mots du père Congar, une démarche placée sous le signe d'un triptyque, rencontrer, écouter et discerner. L'actualité de l'Église universelle, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, l'un de vos rendez-vous. Autour du plateau, Lou Bémond de Senneville, fidèle au rendez-vous envoyé spécial permanent du journal La Croix à Rome et que l'on joint donc depuis cette ville, la ville éternelle. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et est avec nous aussi Xavier Darotte qui est prêtre du diocèse de Toulouse et ancien vice-recteur du sanctuaire de Lourdes. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors on commence avec vous, Lou Bémond de Senneville. Comment ne pas commencer? C'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'est vrai qu'en écrivant cette introduction, je me disais que c'était difficile de faire autrement parce que c'est quand même la grande actualité des Français, des catholiques français et même plus largement probablement des chrétiens. C'est le moment de la honte, a réagi le pape François à la publication donc, du rapport Sauvé. Est-ce que vous pouvez nous dire à Rome quel écho trouve ce rapport terrifiant qui a été publié le 5 octobre dernier, dont on parle pas mal à cette antenne?
Écoutez, ce rapport, il a provoqué une onde de choc à Rome, au Vatican en particulier, et vous l'avez dit, cette onde de choc s'est concrétisée, s'est vue par deux réactions du pape. Une première réaction du pape le jour de la publication du rapport, 2 heures après la publication du rapport, ce qui est dans un temps Vatican une réaction extrêmement rapide. Et donc ce qui est un signe que le pape a pris conscience de l'extrême gravité du moment. Et puis une deuxième réaction le lendemain, mercredi dernier, il y a une semaine exactement, lors de l'audience générale où le pape, après avoir prié avec des évêques français qui étaient là, a dit ces mots extrêmement forts que vous avez mentionnés, c'est le moment de la honte, effectivement.
On pourrait ajouter aussi parmi les propos du pape, il a également encouragé à faire des efforts afin que de semblables drames ne se reproduisent pas. Il a invité les catholiques de France à assumer leurs responsabilités pour garantir que l'Église soit une maison sûre pour tous. Et puis dans cette épreuve dure mais salutaire, il a promis son soutien paternel. On a envie de dire tout est dit, mais est-ce qu'éventuellement il y a des choses à ajouter? C'est pas la première fois qu'arrive à Rome ce type de rapport, puisque il en a été fait ces opérations vérité, si je puis dire, dans d'autres pays.
Alors oui, il y a eu d'autres rapports du même type venant notamment d'Australie, d'Allemagne, d'Irlande, d'autres pays. Donc le Saint-Siège a déjà été confronté à cette situation d'abus, enfin de chiffres qui sortent et de situations dramatiques qui sont révélées de manière de cette manière par un rapport indépendant. Ce qu'il faut dire, c'est que le pape et le Vatican, les responsables du Vatican, avaient été alertés 3 semaines avant. Lors de la visite ad limina des évêques français, c'est-à-dire la visite des évêques aux responsables du Vatican et au pape, dans une démarche de pèlerinage qui se fait régulièrement. Et donc, ils avaient été alertés et le pape avait reçu une note de Monseigneur de Moulin-Beaufort quelques jours avant la publication du rapport, où Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, avait alerté le pape François sur les enjeux de la publication de ce rapport.
Est-ce à dire que Rome pousse les conférences épiscopales des pays où le problème s'est posé, mais on imagine qu'elles sont probablement nombreuses, hein, ces conférences épiscopales, à voir ce type d'opération vérité?
En tout cas, il y a un discours très clair de Rome sur il faut voir la vérité en face et il faut en finir avec cette situation. Alors évidemment, les situations sont très très différentes. Il y a certaines régions, certains pays où aujourd'hui la prise de conscience n'est pas là, où il y a une forme de déni très forte que nous avons connue il y a 15 ans, il y a 20 ans en France. Donc voilà, c'est une situation qui est assez inégale dans le monde, mais ce que l'on peut dire, c'est que lorsque les évêques décident de faire le travail, on peut dire aujourd'hui que Rome soutient ce travail et Rome dit maintenant aux évêques, voilà, faites-le, vous n'avez pas d'autre choix que de le faire, vous n'avez pas d'autre choix que d'affronter la vérité.
Alors, autre actualité d'un tout autre ordre, c'est donc ouvert le 10 octobre dernier, donc le synode sur la synodalité, et ce pour toute l'Église universelle. La veille, il y a eu un temps de réflexion donc sur ce processus synodal. À l'occasion de ce temps de réflexion, le pape François a eu quelques déclarations qui explicitent le sens de ce synode. Il a expliqué, entre autres, ai-je lu, le synode n'est pas un parlement, ce n'est pas une enquête d'opinion, le synode est un moment ecclésial. Et après, en avançant trois mots, communion, participation et mission. Vous qui étiez aux premières loges probablement de cette journée, et puis le lendemain de la messe, on va dire, d'ouverture de ce synode, quelles sont les principales expressions peut-être que vous avez retenues qui donnent le « là » de ce synode?
Alors, en fait, le pape François, il lance avec ce synode sur la synodalité une grande réforme, en fait, sa réforme majeure, qui est la réforme à la fois de la manière dont les décisions sont prises dans l'Église, mais aussi la manière que doivent avoir les responsables de l'Église d'écouter le peuple de Dieu. L'écoute du peuple de Dieu, pardon, c'est une exigence qui est présente depuis le Concile Vatican II et qui, au fond, n'a jamais vraiment été formalisée, ce sensus fidei, vous savez, le sens du peuple de Dieu, ce sens des fidèles. Et donc c'est ça que veut mettre en œuvre le pape François. C'est un synode qui va durer 2 ans formellement, mais pour le pape François, et c'est très clairement ce qui ressort de ses paroles, de ses discours et de ceux qui organisent ce synode, pour le pape François, c'est une nouvelle méthode pour l'Église, c'est une nouvelle manière pour l'Église de transmettre le message du Christ au monde, et c'est une réforme qui va mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans à être effective.
Alors il cité, je citais juste un extrait, il a cité donc dans cette rencontre du 9 octobre aussi le père Congar qui disait donc il ne faut pas construire une autre église mais il faut construire une église différente. J'ai lu aussi ce mot, cela doit être un événement de grâce, un processus de guérison conduit par l'esprit. Qu'est-ce que vous avez retenu peut-être de ces interventions du 9 et du 10? J'ai lu donc communion, participation, mission. On pouvait lire aussi cet autre triptyque cité en introduction, rencontrer, écouter, discerner.
Ce qui est ressorti du 9 et du 10, donc en fait le 9, donc c'était samedi dernier, il y avait à Rome 260 personnes venues du monde entier, des laïcs, des religieuses, des religieux, des prêtres, des évêques, des cardinaux. Ce qui ressort, c'est vraiment une volonté d'écouter chacun, voilà, de ce qu'il a à dire sur l'Église, de ce qu'il a à dire sur la manière qu'a l'Église de porter aujourd'hui le message du Christ et de porter la bonne nouvelle qu'elle porte depuis 2000 ans. Donc c'est vraiment ça qui ressort, notamment le cardinal Mario Grech, qui est un cardinal maltais et à qui le pape a confié le soin d'organiser ce synode. Eh bien, ce cardinal Grech, il insiste beaucoup sur l'écoute de tous les catholiques et en particulier de ceux qui ne sont pas pratiquants ou qui ont un lien peut-être plus distendu avec l'Église que le cœur des paroisses, que le cœur pratiquant des paroisses. Donc voilà, c'est vraiment cette question d'écoute qui est ressortie le 9 et le 10, mais aussi depuis quelques semaines à Rome, alors que ce synode s'organise.
J'ai lu aussi que le pape François mettait en garde contre trois risques à l'occasion de ce synode, le formalisme, l'intellectualisme et l'immobilisme. Et j'ai vu aussi, il a eu cette phrase, le synode nous offre une grande opportunité de conversion pastorale, missionnaire et œcuménique. Est-ce un synode en fait qui a vocation à inviter aussi des frères chrétiens de d'autres confessions?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine dernière à Rome, il y avait beaucoup de responsables d'autres églises chrétiennes, notamment anglicans, orthodoxes, protestants, et plusieurs d'entre eux ont été vivement intéressés par cette démarche synodale. Effectivement, il y a un enjeu dans ce synode de dialogue œcuménique, de revoir aussi peut-être la manière dont on parle, dont on entretient des liens avec d'autres chrétiens qui ne sont pas catholiques. Donc oui, c'est l'un des enjeux. Par ailleurs, ce que vous disiez à l'instant sur les risques de ce synode, effectivement, le pape insiste en disant qu'il ne s'agit pas là d'un processus bureaucratique, il ne s'agit pas là non plus de produire des documents, mais il s'agit vraiment d'essayer d'inventer une église de l'avenir, non pas pour faire la révolution, mais pour continuer à pouvoir porter la bonne nouvelle du Christ dans un monde qui a changé.
On s'est dit qu'on allait revenir aussi, alors hélas trop rapidement, sur le voyage du pape François en Hongrie et en Slovaquie. Ça date un petit peu maintenant, puisque c'était en septembre. C'était le 12, 13 et 14 septembre, donc en Hongrie puis en Slovaquie. Il a eu lors d'une audience du 22 septembre dernier, cette expression, j'ai fait un pèlerinage de prière, un pèlerinage aux racines, un pèlerinage d'espérance, comme pour résumer un petit peu ce qu'a été ce voyage et sa portée. Est-ce que vous pouvez mettre en perspective peut-être ces trois pèlerinages, prière, racine et espérance?
Oui, alors effectivement, c'était un pèlerinage de prière parce qu'il s'est rendu dans plusieurs sanctuaires. Et puis, il y a évidemment toujours une démarche spirituelle hein, lorsque le pape fait des voyages. C'est pas uniquement des voyages diplomatiques de chef d'État. Et par ailleurs, effectivement, il est revenu aux racines. Et lui, ce qu'il a appelé les racines de l'Europe, en fait, ce qui est intéressant, c'est que au cours de ce voyage qui s'est donc tenu il y a maintenant un mois pile, le pape François est allé au cœur géographique de l'Europe pour envoyer des messages à tout le continent. À la fois des messages sur un sujet qui lui est cher, pardon, l'accueil des migrants, la nécessité de s'intéresser aux périphéries, et en même temps, à travers tout le voyage, il a eu ces deux mots, liberté et racine, c'est-à-dire garder solides les racines de la foi, les racines chrétiennes qui ont construit ce continent, mais soyez libres d'annoncer cette parole, soyez des constructeurs d'espérance, soyez créatifs, inventifs. Donc voilà, il est allé dans ces pays pour envoyer un message plus large à tous les catholiques, tous les chrétiens et puis même tous les habitants de la vieille Europe.
Pour finir, souvent le pape François en fait, donc essaye, vous nous disiez d'aller en voyage dans des petits pays ou dans des pays qui peuvent être considérés d'une certaine manière comme on va dire une périphérie de l'Église, le mot est mal choisi, mais et à chaque fois il a évidemment le souci de rencontrer les plus marginalisés. Là, il y a une rencontre avec des Roms. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le pape François leur a dit? J'ai noté ces deux expressions. L'Église est votre maison. Vous êtes dans le cœur de l'Église. Vous qui étiez aux premières loges, qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre?
Oui, alors effectivement, il s'est rendu à Košice, qui est tout à l'est en fait de la Slovaquie, dans une ville, dans un quartier qui est l'un des quartiers où il y a le plus de Roms en Europe. Il faut savoir qu'en Slovaquie, les Roms sont sédentarisés, c'est-à-dire qu'ils ne voyagent pas d'une ville à l'autre, mais ils sont fixés, en l'occurrence dans certaines villes, et en l'occurrence dans ce quartier de Košice. C'est un message à la fois d'accueil, d'assurance, voilà, c'est une proximité spirituelle, ecclésiale que le pape est venu adresser aux Roms dans ce quartier. Il faut savoir que voilà, c'est un peuple, les Roms, qui en Slovaquie comme partout ailleurs en Europe ne sont pas forcément les plus intégrés, même si en Slovaquie la situation s'est un peu améliorée, mais ils sont quand même toujours marginalisés dans des sociétés qui, pour une part, les rejettent. Donc voilà, le pape est allé finalement aux périphéries, là il est vraiment allé aux périphéries, et il a passé un long temps à rencontrer les gens, à voilà, échanger avec des familles, des enfants, et puis avec une communauté de prêtres salésiens qui sont extrêmement actifs dans ce quartier de l'Est, de cette ville de l'Est de la Slovaquie.
Merci Loubet Montsenville d'avoir été fidèle au rendez-vous. On va faire une première pause musicale et puis on va retrouver Xavier Darode, Monseigneur Xavier Darode, pour évoquer le rapport de la SIAZ. On a certes fait une émission hier et puis d'autres interviews, mais il y a encore bien des choses à dire. Et puis on finira par faire écho à la prochaine COP26. Le pape François mobilise les responsables religieux et spirituels du monde entier. Et ça a été l'occasion de beaucoup de rencontres interreligieuses et œcuméniques récentes sur lesquelles vous souhaitiez revenir.
Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité était avec nous au début de l'émission, comme à chaque fois, Lou Bémond de Senneville, envoyé spécial permanent du journal La Croix à Rome, et est avec nous Xavier Darode, qui est donc Monseigneur Xavier Darode, pardon, qui est donc prêtre du diocèse de Toulouse et ancien vice-recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors, Monseigneur Xavier Darode, ce rapport de la SIAZ donc, a été publié le 5 octobre dernier. Je ne sais pas, tout simplement, quel écho ça trouve chez vous. On a fait écho à cette... on a fait mention de cette expression donc, du pape François. C'est le moment de la honte. Hier, Monseigneur Echen, évêque de Pamiers et membre du Conseil permanent des évêques de France, disait en même temps La honte, c'est continuer à se regarder quelque part soi-même. Le temps est vraiment à l'écoute humble des victimes et de cette immense douleur qui monte. Voilà, quelle a été votre première réaction à la lecture de ce rapport?
Eh bien, c'était non seulement à la lecture, mais également à la présentation de ce rapport, exactement le même sentiment de honte que ces crimes aient pu être commis par une institution, par une église qui se faisait défenseur du plus faible. On voit bien qu'il y a là un dysfonctionnement profond et donc on est peiné. Voyez-vous, ce sont des questions que moi je traite depuis 2015 dans le cadre du sanctuaire de Lourdes. J'ai travaillé et œuvré avec Mgr Nicolas Prouvet et les différents recteurs pour pouvoir mettre en place justement des normes de protection des personnes vulnérables et des mineurs. J'ai rencontré, je faisais partie de la cellule d'écoute du diocèse de Tarbes-Lourdes. J'ai eu l'occasion de rencontrer des victimes, j'ai eu l'occasion d'entendre leur souffrance. Et donc, si vous voulez, au-delà de la honte, et qui était extrêmement profonde, j'ai également éprouvé un sentiment de soulagement. Ça peut paraître paradoxal, mais enfin, je me suis dit, voilà que notre Église de France prend conscience de la réalité et de l'ampleur de ce phénomène. Elle en avait certainement conscience, mais peut-être pas dans cette proportion.
Comment vous inviteriez les auditeurs ou les fidèles à prendre, on va dire, la lecture de ce rapport? J'entends par là que... Évidemment, les fidèles sont très troublés et choqués pour une bonne part. On a fait écho à cette antenne de multiples réactions. Alors certaines extrêmes demandant la démission collective des évêques de France, d'autres avec ce fameux hashtag My Church Too, demandant à ce que les évêques ne réfléchissent pas sans les laïcs. Vous me direz, dans les moments de si vive émotion, le propos n'est pas forcément de faire le bon élève, mais quels seraient un peu, entre guillemets, vos conseils pastoraux sur ce sujet?
Je crois qu'il faut comprendre qu'il y a une accumulation de rapports, si vous voulez, qui se succèdent depuis un certain nombre de décennies maintenant. J'ai fait ma formation pour ma part aux États-Unis et j'étais du coup en plein milieu de la crise justement du scandale de pédophilie en 2001-2002 lorsque le John Jay College de New York justement a fait état de toutes les victimes des 5000 prêtres qui ont été mis en cause aux États-Unis. Ça fait écho également à ce qui s'est passé en Belgique, c'est ce qui fait écho à ce qui a pu être vu en Allemagne, au Canada, en Australie, etc. Je pense que, voyez-vous, il faut absolument que nous ayons une volonté de conversion intérieure, personnelle, mais également institutionnel. Il n'est pas juste de simplement dire c'est la faute des autres, c'est aussi à tous les niveaux, à tous les échelons du fonctionnement même de l'Église, parfois un aveuglement, nous n'avons pas voulu voir. Lorsque des fidèles me disaient mais on en a assez parlé, pour ma part j'étais blessé parce que je savais qu'il fallait au contraire agir. Et donc, si vous voulez, il faut que tout le monde puisse se saisir de ce rapport sauvé pour pouvoir justement prendre la mesure de ce qu'il doit changer à son échelle. Et il est évident que des réformes institutionnelles, des modes de fonctionnement devront changer. Le rapport sauvé fait une liste de 45 recommandations. En fait, il y en a beaucoup plus puisque dans chaque proposition, il y en a deux ou trois à chaque fois. Elles ne sont peut-être pas toutes à adopter dans l'immédiat, mais certainement, il y a un discernement à faire et il y a des mesures urgentes à prendre.
Alors, je voulais m'arrêter avec vous pour essayer de compléter un petit peu l'émission d'hier. Merci de votre compréhension à ce sujet, sur certaines recommandations. La première que je suggérais, je vais la lire, c'est la recommandation numéro 23. Reconnaître pour l'ensemble de la période analysée par la Commission, donc 1950 à 2020, pour rappel. Au-delà de la responsabilité pénale et civile pour faute des auteurs des agressions, et le cas échéant des responsables de l'Église, la responsabilité civile et sociale de l'Église, indépendamment de toute faute personnelle de ses responsables. Est-ce que vous pouvez expliciter ce que demande là la commission Sauvé, et ce que ça signifierait ?
Alors, c'est un des points majeurs, si vous voulez, de ce rapport qui pointe un certain nombre de dysfonctionnements qu'elle qualifie de systémiques, et donc qui tiennent même à l'organisation ou au fonctionnement de l'Église. La commission reconnaît hein, très largement qu'il n'y a pas de culpabilité collective, c'est-à-dire que effectivement ces actes ont été commis par des individus et il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur l'ensemble des prêtres. Je rappelle que effectivement que ce soit le rapport Sauvé, que ce soit le rapport John Jay ou bien la commission André Hansen en Belgique, toutes identifient qu'il y a 4% du clergé qui est effectivement coupable. C'est considérable. C'est beaucoup trop pour une institution qui se veut le porteur du plus faible. Néanmoins, et donc il n'y a pas de culpabilité collective, mais il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité collective et nous devons tous la porter. Et cette responsabilité, elle va, et le rapport l'indique, elle doit amener un cheminement sur la gouvernance de l'Église et elle doit amener également, outre à la repentance, effectivement, et une indemnisation des victimes. Alors, et donc les évêques de France vont travailler là-dessus lors de la prochaine assemblée plénière.
Mais ça veut dire quoi de reconnaître la responsabilité civile et sociale de l'Église? En fait, ça a une valeur juridique, ça, ou c'est simplement déclaratif?
Non, c'est pas simplement déclaratif, ça veut dire qu'effectivement, il faut revoir très certainement un certain nombre de modes de fonctionnement dans l'Église. Lorsque j'étais chargé de visites canoniques dans des communautés qui étaient en difficulté, la première chose que l'on me demandait était de voir quels étaient les lieux de contre-pouvoir dans le fonctionnement ecclésial, c'est-à-dire des lieux où une parole contraire pouvait se faire entendre, se dire, sans être menaçante ni pour celui qui l'a prononcée, ni pour celui qui la recevait. Et il est essentiel, effectivement, que dans le mode de fonctionnement de notre Église, on arrive à ces équilibres-là, qui ne soient pas simplement un pouvoir, mais au contraire l'exercice d'une démarche de service. Et donc je crois que l'initiative du Saint-Père, qui est de lancer ce synode sur la synodalité, est la réponse majeure qui pourra être apportée à cette crise dans le fonctionnement interne de l'Église. Je ne parle pas de la réponse qui doit être apportée à chacune des victimes, qui est d'abord la compassion, qui est d'abord l'écoute, qui est d'abord effectivement la reconnaissance des drames qu'ils ont vécus, et notamment le fait qu'ils n'aient pas été reconnus. Donc je crois que là, il y a une initiative du Saint-Siège concernant cette synodalité, ce mode de gouvernance qui est essentiel.
Alors, autre point qui est un peu connexe, j'ai lu à plusieurs reprises, je n'ai pas retrouvé la recommandation exacte, peut-être que vous l'aurez sous les yeux, ou vous la retrouverez, qu'il était, comment dire, une des suggestions du rapport Sauvé, c'était de déconnecter, si j'ai bien compris, ou de faire en sorte en fait, que l'évêque ait entre guillemets, moins de pouvoir, puisqu'il a un pouvoir d'ordre et de gouvernement. Est-ce que vous pouvez expliciter ce que j'ai entrevu par cette déclaration ?
Alors, il y a effectivement un questionnement du fonctionnement de l'autorité de l'évêque. Et on l'entend assez volontiers de la part de plusieurs évêques qui reconnaissent volontiers que souvent ils sont seuls à devoir assumer des décisions, non seulement les assumer, mais également les prendre. Alors, évidemment, ils ont des conseils épiscopaux, mais on se rend bien compte qu'il faut élargir certainement les compétences sur lesquelles ils s'appuient et élargir également les conseils qu'ils peuvent recevoir avec des compétences professionnelles, mais également une diversité sociale et une diversité culturelle.
Alors juste ordre et gouvernement, ça signifie quoi de manière précise ?
Alors c'est tout simplement que le fonctionnement de l'Église est fondée sur la promesse d'obéissance. C'est-à-dire lorsqu'un prêtre est ordonné, il place ses mains entre les mains de l'évêque et qu'il interroge, qui lui demande « Promettez-vous obéissance à moi et à mes successeurs ?» Et donc, lorsque l'évêque parle, il y a toujours ce rappel à cette promissio, cette promesse. Et si vous voulez, il y a peut-être pas là, il y a là, c'est pas peut-être, il y a parfois là, une confusion entre une obéissance religieuse et en fait une obéissance qui doit être simplement de l'ordre administratif ou fonctionnel. Et donc c'est là où le système est, de mon point de vue, dysfonctionnel par moment. Il y a eu une confusion souvent trop grande dans cette articulation entre l'obéissance religieuse et l'obéissance quotidienne, je dirais, administrative ou professionnelle.
Alors, il y a un autre sujet, c'est la question de la réparation financière. Probablement que les auditeurs en ont entendu parler ou qu'ils ont lu ça dans la presse, mais ça vaudrait le coup de préciser quelle est la recommandation précise du rapport Sauvé. C'est donc une indemnisation pour les victimes, mais une indemnisation, si j'ai bien compris, sur fonds propres, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'appel en fait à la générosité des fidèles. Comment faut-il comprendre en fait cette demande du rapport Sauvé?
Ah, il faut la comprendre très très directement. Il ne s'agit pas de tergiverser. Pour ma part, à titre personnel, j'ai décidé que 10% de mes revenus de prêtre, qui sont quand même très faibles, mais 10% de mes revenus de prêtre seront désormais consacrés justement à l'indemnisation des victimes, parce qu'il faut, même si je ne suis pas coupable d'actes à titre personnel, je porte effectivement cette responsabilité. Je pense que cela appartient à chacun d'entre nous, effectivement, de prendre la mesure de cette responsabilité. Ce que dit le rapport Sauvé, c'est qu'il faut que cette indemnisation aussi participe d'une prise de conscience de la gravité de ce qui s'est passé, et que donc il faut que l'institution porte en elle-même le poids de cela. Alors, je connais l'état des finances des diocèses, je sais les difficultés majeures que cela peut avoir pour eux, et donc il faut que chacun d'entre nous, moi y compris, moi le premier justement, en prenne la mesure et s'y attelle.
Et pourquoi ne pas faire appel à la générosité des fidèles? Quel est en fait le sens, quelque part, pardon de prolonger ma question, mais quelle indélicatesse ça pourrait recouvrir quelque part?
Alors, je pense que l'appel aux fidèles se fera néanmoins parce qu'ils font partie de l'Église. On ne peut pas, de mon point de vue, et là je suis peut-être en porte-à-faux par rapport au rapport Sauvé, mais on ne peut pas travailler sur une dichotomie permanente entre clergé et laïque. Je pense que donc il y aura cet appel. Mais ce que le rapport Sauvé demande, c'est qu'effectivement il y ait du coup une prise en compte de la pauvreté même de notre Église. Et c'est tout simplement le fait que nous devons indemniser ces personnes-là parce que c'est juste, parce qu'elles y ont droit. Et donc, il faut que nous en sentions également le prix. Il n'y a pas de question à se poser sur la légitimité. C'est juste. Point.
Des préconisations, vous l'avez dit, hein, il y en a 45. Et à chaque fois, à l'intérieur de certaines, il y en a plusieurs de préconisations. Pour finir cette deuxième partie d'émission, quelle autre préconisation peut-être vous auriez envie de porter à la connaissance des auditeurs alors qu'on en est, on va dire, dans les débuts de la lecture de ce rapport?
Eh bien, écoutez, moi, j'ai plusieurs préconisations qui me semblent parfaitement justes, et d'autant plus justes qu'en fait, elles sont déjà mises en œuvre dans d'autres églises nationales. Je pense aux États-Unis, je pense à la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. C'est notamment, par exemple, le processus d'évaluation des séminaristes avec une évaluation psychologique de chacun des candidats, mais également la transparence de l'évaluation des candidats qui n'est pas toujours effective, en tout cas qui ne l'était pas lorsque moi j'étais moi-même au séminaire. Je pense que beaucoup de progrès ont été faits puisque j'en ai parlé, mais je pense que là il y a certainement quelque chose à faire. Et deuxième point, c'est l'évaluation de la même façon, l'évaluation chaque année, annuelle, de chacun des prêtres, le suivi lors d'un entretien formel avec l'évêque ou le vicaire général. Je crois que c'est essentiel.
Voilà, et on pourrait ajouter hein, que, de fait, cette, je note la recommandation numéro 35, renforcer la dynamique de l'entretien annuel aussi avec l'évêque, le vicaire général. Ah oui, non, c'est ceux dont, d'accord, c'est les prêtres avec l'évêque. Je pensais que c'était l'évêque qui lui-même allait être soumis à un entretien annuel.
C'est essentiel, et surtout que cet entretien soit structuré et qu'il y ait des critères d'évaluation, qu'il y ait une préparation de cet entretien, que ça ne soit pas simplement une rencontre courtoise, mais qu'effectivement il y ait un vrai suivi.
Merci Mgr Xavier Darod. On fait une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parler de multiples rencontres interreligieuses et des plus importantes qui ont eu lieu récemment. Ça a échappé probablement à beaucoup, mais le pape François a mobilisé à Rome à l'occasion d'une rencontre organisée par la communauté Salegidio et en partie en vue de la prochaine COP26 qui est prévue à Glasgow donc début novembre. On en parle tout de suite après cette deuxième pause.
Radio Présence à Gourdon 104.8. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, Loubet Mont-de-Senneville, envoyé spécial permanent du journal La Croix à Rome, qui était avec nous au début de l'émission, et Mgr Xavier Darod, prêtre du diocèse de Toulouse et ancien vice-recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. En vue donc de la prochaine COP, la COP 26, qui va avoir lieu donc du 1er au 12 novembre prochain à Glasgow, il y a eu une rencontre au Vatican récemment. J'avoue qu'elle m'avait échappé, pourtant Dieu sait si elle est importante. Et voilà comment c'est justement l'article de Loubet Mont-de-Senneville dans le journal La Croix. Voilà très longtemps qu'un tel rassemblement de hauts responsables religieux venus du monde entier n'avait pas eu lieu au Vatican. C'était donc le mardi 4 octobre dernier, jour de la fête de Saint François d'Assise, et c'était en vue donc de la publication d'un texte commun à l'adresse des dirigeants du monde entier qui vont se retrouver dans ce sommet. Alors on peut trouver de multiples phrases qui invitent à l'urgence, on va dire, de réforme. Maintenant, il est temps de mettre en œuvre une action urgente, radicale et responsable, disent tous ces responsables religieux. Ça vous a frappé, du coup, vous avez attiré mon attention. Et peut-être qu'après, on prendra le temps de s'arrêter sur les déclarations des uns et des autres. Mais déjà, le fait est relativement historique, non ?
Oui, écoutez, Emmanuel, c'est l'avantage d'avoir un ancien diplomate à vos côtés. C'est-à-dire qu'il est peut-être plus sensible à un certain nombre de signaux qui paraissent, d'un point de vue général, assez insignifiants. En l'occurrence, si vous voulez, ces rencontres interreligieuses, puisqu'il y avait également des représentants de l'islam sunnite et chiite, du judaïsme, de l'hindouisme, du sikhisme, du bouddhisme, taoïsme, etc. Voyez-vous, c'est cette rencontre qui est tout à fait inédite parce que elle s'est étalée sur plusieurs jours et donc elle a touché plusieurs sujets, en particulier la COP26, parce que effectivement le Saint-Père à l'intuition et avec l'ensemble des autres leaders religieux que il y a là une urgence, c'est l'un des marqueurs très profonds de son pontificat, il y a là une urgence majeure qui fait que l'ensemble des religions doivent se faire entendre parce qu'elles doivent amener chacun à un changement de conscience, à un changement d'attitude vis-à-vis du respect de la création tout entière. Donc il y avait là des figures tout à fait éminentes, hein, je pense au patriarche de Constantinople, Bartholoméo, le chef de l'église anglicane, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et si vous voulez, il y a eu également cette déclaration qui a été faite et sur la COP26 et sur également l'enseignement, parce que ces leaders religieux ont bien conscience que tout doit se jouer, notamment dans l'éducation des nouvelles générations, et que les religions ont une responsabilité tout à fait éminente et spécifique dans la protection de la nature.
Est-ce qu'aussi le signal faible, comme vous dites, c'est aussi que tout le monde se réunit au Vatican, quand en général les rencontres interreligieuses sont peut-être en un autre lieu que le lieu de résidence ou de pouvoir de l'un de ces leaders religieux ?
Alors c'est indéniablement un signal. Du reste, le patriarcat de Moscou l'a bien compris, puisque ce n'est pas le patriarche Kirill qui est venu, mais c'est Mgr Hilarion, le ministre des Affaires étrangères. Mais néanmoins, tout a été fait. Je suis assez admiratif de la façon dont le Saint-Siège a organisé cela, afin qu'il n'y ait pas de domination écrasante du pape ou du Saint-Père sur ce dialogue. C'est clairement lui qui le lance, c'est clairement lui, et la secrétaire d'État qui l'anime, mais il y a une volonté très claire du Saint-Père d'avoir un dialogue et qui ne soit pas donc un monologue, c'est que chacun est invité avec sa tradition culturelle et religieuse à participer justement à l'expression d'une volonté commune. Alors il ne s'agit pas d'un dialogue théologique, donc il n'est pas question d'entrer dans du syncrétisme, il est tout simplement de représenter vis-à-vis de la communauté internationale la position des chrétiens, des juifs, des musulmans, des hindouistes, etc. Alors c'est intéressant parce que ça a été lancé également en collaboration avec les ambassades de Grande-Bretagne et d'Italie près de Saint-Siège, ce qui visait donc à donner très clairement un retentissement diplomatique important puisque l'ensemble du corps diplomatique était associé à ces travaux et pouvait les suivre.
Alors parmi les rencontres, on va dire, bilatérales qu'il y a eu ou que ce sommet a permis, il y a une rencontre donc avec le grand imam Al-Tayeb, donc de la mosquée Al-Azhar, grand représentant de l'islam sunnite, qui est présent, donc, enfin, qui se trouve au Caire. Il est revenu donc sur l'importance que revêt Fratelli Tutti pour les musulmans, cette encyclique du pape François, avec des phrases, c'est vrai, qui peuvent étonner d'une certaine manière. Fratelli Tutti est une encyclique importante aussi pour les musulmans, a-t-il déclaré. On peut trouver une autre. Cette encyclique est certainement d'une énorme importance, surtout en ce moment, tant pour les musulmans que les non-musulmans, pardon, nous disons que l'homme est semblable ou égal à moi, qu'il est mon frère en humanité, il peut être un frère en religion, mais il peut aussi être un frère pour moi en humanité. Là aussi, quelle lecture en fait le diplomate que vous êtes? C'est les déclarations convenues, entre guillemets, qu'il est de bon ton de dire quand on vient à tel sommet, ou est-ce qu'on peut y lire davantage?
On n'est pas, lorsqu'on vient de tels sommets, on n'est pas du tout obligé de se fendre de telles déclarations. Au contraire, c'est que je crois que la publication de l'encyclique du pape François Laudato Si, qui avait été faite en amont de la COP21 en 2015, si vous voulez, a joué un rôle déterminant et qui est reconnu par tous. Beaucoup espéraient du reste que le pape puisse se rendre à Glasgow à la COP26. On parlait même d'avoir une démarche conjointe du patriarche œcuménique Bartholoméos, le patriarche de Constantinople. Finalement, il est apparu préférable de ne pas exposer directement les leaders religieux, mais il y a, je crois, au-delà des convenances que vous rappeliez, diplomatiques, il y a une vraie appréciation, tant de la part des religieux que du monde politique et diplomatique, de la contribution même du Vatican et du pape François à cette réflexion sur l'avenir de notre planète.
Alors là,
un élément frappant, j'ajoute juste une chose, c'est un élément frappant parce que l'ensemble des visites d'État qui ont eu lieu au Vatican, toutes ont mentionné à un moment ou un autre cette dimension.
Pardon, je me permettais de vous relancer parce que la remarque du grand imam Al-Tayeb, Mohamed Al-Tayeb, concernait donc Fratelli Tutti. On sait que parfois chez les chrétiens, enfin chez les catholiques peut-être français, hein, mais pour une partie, c'est une encyclique qui, va dire, qui gratte, si je puis me permettre d'être aussi trivial, puisqu'elle est une invitation à entretenir une vraie relation fraternelle avec nos frères musulmans. Cette main tendue, on a l'impression que, du coup, une partie de l'islam sunnite veut la faire sienne à lire le grand imam.
Alors, il est certain qu'effectivement, dans ce dialogue interreligieux, il était essentiel de pouvoir redire justement notre disponibilité à converser. La difficulté, parce qu'il ne faut pas avoir de langue de bois, la difficulté que l'on a toujours dans ce dialogue avec le monde musulman est la représentativité que l'on peut avoir. Que le recteur de l'université Al-Azhar se prononce, en revanche, cela montre néanmoins les grands progrès qui ont pu être faits. Parce que c'est dans le monde musulman une des plus hautes autorités qui existent. L'essentiel, mais ce n'est pas parce que les chefs se parlent qu'effectivement, à la base, les choses sont plus simples. Vous disiez que justement Fratelli Tutti, dans l'Église elle-même, provoque parfois un peu d'urticaire. C'est de la même chose lorsque le recteur de l'université prend cette position. Donc il est essentiel que ce dialogue au niveau des chefs spirituels se fasse, mais néanmoins, c'est désormais à nous de nous en saisir au jour le jour.
Alors, je voulais m'arrêter dans les 2-3 minutes qui nous restent sur une autre rencontre. Je vous laisse éventuellement en choisir une autre si vous le souhaitez. C'est donc la rencontre avec le métropolite Hilarion. Vous avez dit, hein, c'est une sorte de ministre des Affaires étrangères, donc du patriarche de Moscou, patriarche orthodoxe de Moscou, patriarcat, pardon, orthodoxe de Moscou, qui est donc le patriarche Kirill. Et on parle d'une prochaine nouvelle rencontre avec le pape François. Est-ce que c'est, comment dire, quand on annonce ce genre de choses, c'est que de fait ça va se passer? Est-ce que vous pouvez mettre en perspective peut-être cette annonce?
Ah, c'est extrêmement intéressant puisque les relations ont été compliquées entre l'Église catholique et l'Église russe orthodoxe. Néanmoins, il y a eu cette rencontre le 12 février 2016 entre le pape François et le patriarche Kirill, qui s'était rencontré dans les Caraïbes. C'était une première dans l'histoire des Églises, depuis le schisme entre l'Orient et l'Occident. Donc cette rencontre, elle est essentielle. Hilarion est un prélat, donc le ministre des Affaires étrangères, en quelque sorte, du patriarcat de Moscou. Et il a fait ses études à Rome, il connaît parfaitement les rouages du Vatican, et donc je crois que cette rencontre est tout à fait intéressante. Je ne sais pas où elle aura lieu, Hilarion n'a pas donné le lieu même de la rencontre. Il semble cependant que les conditions ne sont pas réunies à ce stade pour un voyage du pape en Russie. Mais je pense que cette rencontre aura donc lieu en territoire neutre. Et beaucoup de convergences, si vous voulez, pourront être abordées. J'ai été frappé, par exemple, moi, des déclarations du pape ces derniers jours, justement aux catholiques, demandant aux catholiques en Russie ou également aux gréco-catholiques en Ukraine, demandant à favoriser davantage encore un rapprochement avec l'Église russe orthodoxe. Donc, je pense qu'il y a là une convergence, notamment aussi sur la question de la catastrophe climatique imminente, c'est ce que disait le pape, il y a là une convergence très très profonde entre le patriarcat de Moscou et le Vatican.
Voilà, et on peut dire qu'il y a aussi, à l'occasion de la publication récente d'un livre du pape François intitulé « Prière, le souffle d'une vie nouvelle », récente, c'était en 2019, mais en tout cas les articles le rappelaient, aux éditions de la librairie éditrice du Vatican, la préface était faite par le patriarche russe orthodoxe Kirill, avec des réflexions notamment sur le Notre Père. Voilà, c'est des petits pas, mais c'est des petits pas sur lesquels il est bon d'attirer notre attention. Merci à vous. Un grand merci à la technique Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.